Bonjour à tous. J'ai bien aimé ce cantique, plusieurs cantiques ce matin, c'était vraiment bien, mais j'ai bien aimé cette phrase qu'on a chantée. Pour qui tu es, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te donner gloire. Pour qui tu es. On veut certainement remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Les Écritures le disent que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dieu est bon, Dieu est généreux avec nous. Mais ce qu'on veut aussi, c'est l'adorer juste pour qui il est. Il est Dieu. Il est, comme disait Alex tantôt, il est omnipotent, il peut tout. Il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent. Alors, il est 24 heures sur 24 avec nous. Même lorsqu'on dort, il est là, il est présent, il veille sur nous. Donc, on veut le louer pour qui il est. Une fois par année, ce qu'on fait, nous autres, les anciens, on se réunit, on appelle ça une retraite d'anciens. On part, des fois, on fait ça ici, une journée, toute la journée, là, un samedi. Mais en automne dernier, ce qu'on a décidé de faire, on a décidé d'aller dans un chalet dans le nord, et puis on est parti un vendredi soir et samedi pour réfléchir sur l'avenir de l'Église, le sentier. Le Seigneur nous a confié toute une belle mission de faire de toutes les nations des disciples. Donc, ça demande la réflexion, un peu comme l'apôtre Paul, était très intentionnel dans ce qu'il faisait. Tu regardes les parcours missionnaires de l'apôtre Paul, c'était très réfléchi, il voulait emmener les Écritures et l'Évangile un peu partout dans les territoires. Et oui, de temps en temps, Dieu intervenait et changeait ses plans, et c'est correct, on veut être flexible, c'est Dieu qui décide. Mais Dieu veut aussi qu'on planifie, qu'on regarde, qu'on soit intentionnel dans ce qu'on fait à faire des disciples. Jésus l'a dit, faites de toutes les nations des disciples. Alors, ça demande une réflexion. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est en automne dernier, on est allé un vendredi soir. On a passé la soirée du vendredi soir, en fait, à chanter des cantiques, à louer le Seigneur, prier. Et le lendemain, le samedi, on a passé la journée sur deux grandes questions, dans le fond. On s'est posé quelques questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on voulait être dans 10 ans? En d'autres mots, en 2025, qu'est-ce que l'Église de Sentier, qu'est-ce qu'on voudrait qu'elle ait l'air? Et on a repassé finalement les 5 éléments de la vision. On s'est posé la même question pour chacun des éléments de la vision. Et qu'est-ce qu'on aimerait que l'Église de Sentier puisse être et faire dans 10 ans? Et parce qu'il faut réfléchir comme ça, parce qu'il faut commencer tout de suite à se préparer. Je vais juste vous donner un exemple très concret. Prenons juste les groupes maison. Un des moyens, on l'a vu la semaine dernière, regardant ce graphique, ce sondage qui a été passé à travers des milliers de chrétiens et au-delà de 200 églises qui ont répondu à un questionnaire qui a permis de découvrir les 4 plus grands facteurs qui contribuaient à la croissance des chrétiens. Et on a découvert, si vous voyez les pastilles en couleur, on a découvert finalement à travers ces milliers de questionnaires qui ont été répondus, on a découvert que les 4 catalyseurs qui nous aident vraiment à grandir dans le Seigneur, c'est notre connaissance de la parole de Dieu. Tout d'abord, ça commence là. Il faut commencer à découvrir qui est Dieu, le connaître, connaître notre identité, qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Donc, c'est la connaissance de la parole de Dieu. On veut fonder notre foi, enraciner notre foi dans la parole de Dieu. Deuxièmement, on veut participer aux activités de l'Église, c'est-à-dire la célébration du dimanche matin. On lance le défi aux gens d'au moins participer à 3 ministères de l'Assemblée, dont le dimanche matin, évidemment. Il y a d'autres ministères comme le dimanche soir, il y a les groupes maison. On va commencer en septembre les groupes connexion. Vous allez en entendre parler, on va vous décrire ce que c'est. Ça va se passer dimanche matin. Et il y a toutes sortes d'autres ministères ici, le ministère des femmes, il y a la jeunesse, il y a les hommes. Mais juste pour vous donner un exemple, avec la croissance au fil des années, dans 10 ans, on va avoir besoin d'une 30aine de groupes maison. On cible avoir un groupe maison pour chaque 20 personnes de l'Assemblée. Si on veut vraiment être efficace à faire des disciples tels que le Seigneur nous le demande, ça nous prend des groupes maison parce que c'est la vie de la communauté. On veut s'investir dans la vie les uns des autres, prier les uns pour les autres. C'est vraiment dans un groupe maison où ça se passe vraiment bien. C'est là que ça se passe. Donc, on va avoir besoin de 30 groupes maison dans une dizaine d'années. On veut être rendu là. Ce que ça implique de former d'ici ce temps-là plus de 60 leaders, des bergers, qui vont exercer un ministère auprès, qui vont s'occuper finalement de ces groupes maison. Donc, il y a de l'ouvrage sur la planche. Juste pour un autre exemple, on va avoir un groupe connexion pour chaque 50 personnes de l'Église. Ce que ça implique, c'est que d'ici 10 ans, on va avoir besoin d'avoir 12 groupes connexion à l'Église. Et ça implique de former une 40aine de leaders qui vont s'occuper de ces groupes connexion. Alors imaginez, sans parler du TE, sans parler de la jeunesse, sans parler de la relève dans un paquet d'autres ministères de l'Église, on va avoir besoin, juste pour les groupes maison et les groupes connexion, de former une centaine de personnes. Alors, est-ce qu'il y a de l'ouvrage sur la planche? Pas mal d'ouvrages. Et c'est un défi, et ça ne nous écrase pas. On est excités de s'investir dans la vie des gens. Mais ce que ça demande, ça va demander effectivement la prière. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, il regarde, puis il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Ce que ça demande, c'est la prière, mais ce que ça demande aussi, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions nous investir et servir le Seigneur. On a besoin vraiment de servir. Il y en a qui servent déjà le Seigneur, et c'est super, mais on a besoin de vous voir tous à l'œuvre, parce que l'Église a été composée comme ça. Et c'est ce qu'on va voir dans un passage, dans 1 Pierre. Par exemple, lorsque Pierre a écrit sa lettre, il faut comprendre que c'est dans un contexte qui était très difficile pour les chrétiens. C'est une période de persécution. Les chrétiens subissaient toutes sortes d'hostilités de la part des gens de la société. Le christianisme n'était pas bien respecté, c'était d'ailleurs méconnu. On soupçonnait les chrétiens, on les méprisait et on faisait beaucoup de discrimination à l'endroit des chrétiens. Donc, c'est dans ce contexte qui était hostile à l'Évangile que plusieurs chrétiens, finalement, souffraient, et c'était très difficile. Ils se faisaient même mettre dehors dans certains contextes de leur maison. Alors, Pierre va écrire aux chrétiens qui souffrent. Maintenant, ça s'applique à chacun d'entre nous. C'est la parole de Dieu qui est inspirée et nous avons tous besoin d'entendre ces enseignements de la parole de Dieu. Parfois, nous allons vivre des moments difficiles d'épreuves, de difficultés. D'autres fois, ça va mieux, mais même cela, les vérités qu'on nous enseigne ici dans ce passage, c'est pour chacun d'entre nous. Alors, ce que Pierre va faire, il veut tout d'abord encourager ses chers chrétiens à ne pas lancer la serviette, mais à être encouragés, à prendre courage et à continuer de servir le Seigneur. Et nous allons regarder un passage en particulier ce matin où Pierre va mettre l'accent sur le service. Il parle aux chrétiens et il les exhorte, les encourage à servir. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va d'abord leur parler de leur nouvelle identité en Jésus-Christ. Il va leur parler de la transformation puissante de l'Évangile dans leur vie. Premièrement, Dieu, par la puissance de l'Évangile, va nous transformer en un peuple. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et c'est ce que Pierre leur dit. Nous sommes un peuple saint, on est un peuple choisi de Dieu. Non seulement nous sommes son peuple, nous faisons partie de la famille de Dieu, mais en plus, Dieu nous a fait des prêtres. Les prêtres, c'est chacun d'entre nous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un prêtre. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes l'ambassadeur de Dieu. Vous représentez Dieu là où vous êtes, dans votre milieu, dans votre famille, à votre travail. Vous êtes les ambassadeurs de Dieu. En plus, ce que Pierre va leur rappeler, c'est que nous sommes des étrangers ici sur terre. Dans le fond, ce n'est pas notre demeure ici. C'est passager, c'est temporaire. Notre vraie demeure, c'est avec le Seigneur dans l'éternité. Alors, Pierre les encourage et leur rappelle leur nouvelle identité en Jésus-Christ. Leur rappelle l'espérance du salut. Cette belle espérance que nous avons. Et que nous sommes un peuple élu, nous sommes des prêtres, nous sommes étrangers ici sur terre. Nous sommes les représentants de Dieu, les ambassadeurs. Donc, sa conclusion et cette exhortation qu'il va donner au peuple, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, c'est que nous devons donc vivre dans la sainteté. Nous devons donc vivre de manière à être un bon témoignage envers ceux de l'extérieur. Ça comprend même ceux de l'extérieur qui étaient hostiles à l'Évangile et qui faisaient même mal au peuple de Dieu. Mais non seulement ça aussi, on veut le faire pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que Pierre va dire. Donc, qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider à marcher avec Dieu à la lumière de toute cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ? Et c'est là que Pierre s'en va vers son dernier chapitre. Il va nous montrer marcher avec le Seigneur. Et il donne cet enseignement-là au 4e chapitre de 1 Pierre. Puis j'aimerais vous lire ce passage dans 1 Pierre 4. Et si vous voulez me rejoindre dans le 4e chapitre d'1 Pierre. 1 Pierre 4, verset 7. Alors, on va lire les versets 7 au verset 11. 1 Pierre 4, 7, 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Et comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Eh bien, Seigneur, nous voulons te prier ce matin, te demander que ton Esprit Saint puisse œuvrer, faire une œuvre puissante de transformation dans nos cœurs. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Tu es tout pour nous parce que tu as tout fait pour nous. Tu as livré ton Fils à la croix pour nous. Nous te devons tout, Seigneur. Alors, que notre vie puisse t'apporter de la gloire et de la joie. Nous voulons être une bénédiction pour toi, Seigneur, car on te doit tout. Parle à nos cœurs ce matin, par ce message que Pierre nous livre. Au nom de Jésus. Amen. Mais si on résume en une phrase, tout ce que Pierre vient de dire, les versets 7 au verset 11, une phrase, on résume ça bien simplement, c'est ceci. Parce que c'est la dernière heure, faisons un pas en avant pour la gloire de Dieu. Aussi simple que ça. D'accord? Fais un pas en avant. Parce que c'est la dernière heure, faisons un pas en avant pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, priez pour les autres, aimez les autres, accueillir les autres et servir les autres. Tu veux faire un pas en avant, et comme on a vu dans le graphique tantôt, l'une des choses qui nous aide à grandir, on l'a vu dans le graphique, dans les quatre catégories, quatre catalyseurs, on voit quelque chose, un thème qui revient, c'est la connaissance, mais c'est les activités organisées par l'Église, mais c'est ton implication, c'est la discipline spirituelle, qui veut dire la prière, ça veut dire lire les bons livres chrétiens pour t'édifier. Mais quatrièmement, c'est les actes, c'est t'impliquer, te mouiller, c'est le service. Et s'il y a une chose qui va te propulser, qui va t'aider à grandir dans le Seigneur, c'est vraiment t'impliquer et servir. Et c'est le message que Pierre nous livre ici. Tout le passage touche le thème du service. Et c'est un des éléments de la vision que nous avons, c'est envoyer. Et ça, c'est vraiment un thème, une des parties de la vision de l'Église, c'est d'encourager les frères et sœurs à s'impliquer dans l'Église. Envoyer, pas nécessairement ailleurs, des fois, oui, il y en a qui sont partis servir le Seigneur, on pense à la famille Tremblay, qui sont maintenant rendus à Orléans, qui aident là-bas. On pense à d'autres familles qui sont parties aider d'autres églises. On pense aux Carpentiers qui sont à Maniwaki. Donc oui, des fois, c'est envoyé ailleurs, mais ce thème, c'est vraiment l'idée de servir, de s'impliquer. Donc, faire un pas en avant. Et c'est d'abord prier pour les autres, aimer les autres, accueillir les autres et servir les autres. En d'autres mots, on a besoin de vivre ensemble, en communauté, avec des frères et sœurs, et nous fortifier mutuellement, nous encourager mutuellement à avancer dans le Seigneur. Imaginez même d'ailleurs ces chrétiens, concrètement, qui vivaient la persécution, qui parfois étaient jetés dehors de leur maison. La seule place qu'ils pouvaient trouver refuge, c'était dans l'Église. C'est là qu'ils sont aimés, qu'ils étaient acceptés. Et l'Église doit devenir cela, cet endroit où on est entouré, où on est aimé et où on prie les uns pour les autres. Et c'est le plan de Dieu que l'on connaisse ou pas des persécutions, que l'Église devienne une bénédiction pour chacun des enfants de Dieu, que l'on puisse grandir ensemble. Pourquoi s'impliquer? Pourquoi se mouiller? Pourquoi faire un pas en avant? Eh bien, tout d'abord, Pierre le dit au verset 7, « La fin de toute chose est proche. » La fin de toute chose est proche. Nous sommes à la dernière heure. Jésus revient bientôt. À tout moment, Jésus pourrait revenir. Maintenant, l'histoire de la rédemption est accomplie. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Jésus l'a dit d'ailleurs, tout est accompli. Alors, le but de l'histoire s'est manifesté en Jésus-Christ. 1 Pierre 1:20 dit ceci, « Jésus a été prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. » Maintenant, vous allez dire, oui, mais il me semble que ça fait 2000 ans là ici que Jésus n'est pas encore là. Ça fait 2000 ans qu'il attend. Bien, il faut comprendre la façon que Pierre fait la lecture de l'histoire. Chaque événement majeur qui devait avoir lieu dans le plan rédempteur de Dieu a été accompli. Tout est maintenant prêt pour le retour et le règne de Jésus-Christ. Voyez-vous, Pierre ne voit pas l'histoire en termes de roi et de royaume sur terre. Ce n'est pas de cette façon qu'il va lire l'histoire. Il lit l'histoire à travers le plan global du salut de Dieu, ce qu'on appelle le plan rédempteur de Dieu. Et dans ce sens, le plan rédempteur de Dieu, l'histoire rédemptrice ou l'histoire du salut de Dieu, c'est en fait déroulé en plusieurs actes à travers l'histoire. Par exemple, on pense, ça commence avec la création, avec Adam et Ève. Ensuite, il y a la chute d'Adam et Ève, le péché qui est rentré dans le monde. Et il y a toutes les conséquences du péché. Il y a l'appel d'Abraham que Dieu va promettre à Abraham, qui était pour créer tout un peuple, une nation de foi. Et il y a l'Exode, où Dieu appelle Moïse, et il y a toute la libération des Juifs. Il y a le peuple d'Israël, tout ce peuple que Dieu va créer, une nation qu'il va créer, le peuple d'Israël. Il y a plus tard tout l'exil de 70 ans à Babylone, où les Juifs sont envoyés en exil. Il y a le retour de l'exil ensuite, qui, après 70 ans, ils reviennent. Et ensuite, tu vas avoir la naissance de Jésus-Christ. Tu vas avoir sa vie, son ministère et son service. Tu vas avoir sa mort. Tu vas avoir sa résurrection. Il revient d'entre les morts. Tu vas avoir son ascension ensuite, alors qu'il monte au ciel, retourné auprès de son Père. Tu vas avoir ensuite la descente du Saint-Esprit dans Acte 2, qui descend sur tous les croyants. Et tu as là la naissance de l'Église. Et ça, c'est le dernier acte dans le plan rédempteur global de Dieu avant la fin, qui est le retour de Jésus-Christ. Donc, Pierre regarde l'histoire, il regarde les actes du plan rédempteur de Dieu, et il dit, tous les actes de cette trame du plan de Dieu, du salut, ont été accomplis. Il ne manque plus rien maintenant que... avant le retour de Jésus-Christ. La seule raison pour laquelle Jésus tarde à revenir, c'est sa compassion, la compassion de Dieu, sa miséricorde, qui veut emmener le plus de gens possible sous l'autorité de Christ par la foi et la repentance. Mais maintenant, Pierre dit, « La fin de toute chose est proche. » Donc, soyons sages et servons le Seigneur. Faisons un pas en avant. Maintenant, il y a des gens qui servent déjà, le Seigneur sont déjà impliqués, ils sont déjà mouillés. On en connaît plusieurs dans l'Église, des gens qui se dévouent vraiment au service de Dieu. Maintenant, on a demandé à Billy Graham, qu'est-ce qui changerait de sa vie si Jésus allait revenir à la fin de la journée? Pense-y, pose-toi la question là. Si Jésus allait revenir ce soir, si tu savais que Jésus était pour revenir à 10 heures ce soir, qu'est-ce que tu changerais de ta vie? Savez-vous ce que Billy Graham a répondu? Il dit, « Je changerai absolument rien, je continuerai à faire ce que je fais là. » En d'autres mots, ce que Billy Graham est en train de dire, c'est qu'il vivait déjà à la lumière de l'éternité. On a posé la même question à Martin Luther, puis on a demandé à Martin Luther, « Qu'est-ce que toi tu ferais si Jésus allait revenir ce soir? » Bien, il a pensé, puis il dit, « J'irais planter un arbre, puis j'irais payer mes taxes. » Et ce qu'il voulait dire par sa réponse, c'était qu'il vivait déjà à la lumière d'éternité. Il n'avait pas besoin de rien changer à son calendrier, il avait juste à continuer à faire ce qu'il faisait, finalement, et ce qu'il avait planifié dans la journée. Il allait payer ses taxes, planter un arbre. Maintenant, plusieurs servent déjà le Seigneur, mais sont déjà, ils aiment Dieu, puis ils adorent Dieu. Leur vie est vraiment une bénédiction. Et ce que Pierre dit, dans un contexte qui est particulièrement difficile, qui est la persécution, et quels que soient les moments difficiles à travers lesquels nous on peut passer, le message de Pierre à ces gens-là, c'est rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous comment vous êtes un peuple élu, un peuple de, vous êtes des prêtres, vous êtes des étrangers ici, alors continuez à servir le Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas encore là, l'exhortation de Pierre dit, écoute, c'est la dernière heure, c'est vraiment le temps de s'y mettre. Et ça, c'est l'exhortation qu'il donne. On n'a plus de temps à attendre, c'est la dernière heure. Alors, fais un pas en avant dans ta vie chrétienne. Premièrement, donc, une vie de prière, ça commence là. Il dit, un, c'est la raison, c'est que c'est la dernière heure, et deuxièmement, ça apporte beaucoup la gloire de Dieu, verset 11. Il termine avec ça, mais on va revenir plus loin. Afin que tout, en tout, Dieu reçoive la gloire qui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. En d'autres mots, c'est la dernière heure, et donc il faut s'y mettre, et en plus, on veut glorifier le Seigneur. Alors, parce que c'est la fin de toute chose, parce que la fin est proche, parce que le Seigneur est prêt à revenir. Il ne manque plus rien aux actes du plan rédempteur de Dieu. Et parce qu'on veut glorifier le Seigneur, on veut faire un pas en avant. Un, par la prière. Regardez bien ce que ça dit. On veut prier pour les autres. Ça dit au verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Maintenant, « sage et sobre ». Le mot « sobre » est intéressant. C'est le contraire d'être ivre, c'est le contraire d'ivresse. Parce que c'est la dernière heure, on a vraiment besoin d'être sage et d'être sobre. Qui est tout à fait le contraire à la vie que l'on menait avant et que Pierre a décrit déjà au début du chapitre, au verset 3. En d'autres mots, on a besoin de vivre avec sagesse, avec réflexion, être sensible que c'est la fin des temps. Donc, particulièrement important pour nous de vaguer à la prière, de se donner la prière. On veut être alerte, on veut discerner les temps, être conscient des besoins spirituels afin de mieux prier. La prière nous aide à vivre avec sagesse, et vivre avec sagesse nous incite à prier parce que nous sommes conscients des enjeux et tout ce qui se passe. On est conscient des besoins spirituels des autres. Et c'est particulièrement important vu qu'on est à la fin des temps. Et Pierre comprenait très bien l'importance de la prière, parce que particulièrement dans son cas, rappelez-vous ce qui s'est passé, il va prendre le même langage que Jésus a pris dans le jardin de Gethsémané. Rappelez-vous, Jésus, l'un des moments les plus critiques de sa vie, alors qu'il est dans le jardin de Gethsémané et qu'il va se faire arrêter. Il est tout près de son arrestation et il demande à quelques disciples de venir avec lui, l'accompagner, dont Pierre. Il va demander à Pierre et les autres, quelques disciples, de prier, parce qu'il est le mot que Jésus va dire, l'expression qu'il va dire, « Voici l'heure approche. L'heure approche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Alors, priez. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a dormi. Tombé endormi. Couple de fois à part ça. Alors, Pierre se rappelle dans ce moment tellement critique où c'était la dernière heure. Et Pierre applique ce même message pour nous en nous disant, mes chers amis, c'est la dernière heure. On peut presque entendre Jésus nous le dire comme il l'a dit à Pierre dans le jardin de Gethsémané. Et si c'était vrai pour Pierre, combien plus forte raison, c'est encore plus vrai pour nous, n'est-ce pas? Qui vivons 2000 ans après. C'est la dernière heure. La fin approche. Nous avons besoin de nous donner à la prière. On va mettre Libération 21 bientôt. On va avoir un 21 jours de prière. Et on aimerait encourager toute l'Église à participer à ces événements de prière. Venez prier avec nous. On va revenir là-dessus. On va vous présenter ça au cours des prochaines semaines. Alors, on fait un pas en avant, priant les uns pour les autres. Deuxièmement, on s'aime intensément. Voici ce qu'il dit au verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Mais ça veut dire quoi, ça, s'aimer ardemment? Est-ce qu'on s'aime ardemment? Qu'est-ce qui fait la différence? Quelqu'un, j'aime ardemment, lui, j'aime moins ardemment. L'autre, je l'aime un peu ardemment. L'autre, ça veut dire quoi, ça? Aimer ardemment. C'est une exhortation que le Seigneur nous donne ici. Il y a un amour ardent les uns pour les autres. Une façon de l'expliquer, c'est à penser à un amour persévérant, un amour qui persévère, un amour qui ne laisse pas tomber, même en dépit que tu me fais du mal. Ça veut dire que je vais continuer à t'aimer, au-delà même du mal que tu m'as fait ou que tu as fait à d'autres. Là, s'il y a une chose qui est vraiment plate, c'est des églises qui se divisent, qui se déchirent. Il n'y a rien de plus désolant qui endommage plus le témoignage envers des gens du dehors même, des divisions d'églises. Moi, je connais des églises, des fois, qui m'appellent, et heureusement, le sentier, et on vit tellement pas ça, mais je connais des églises, et je suis allé dans les églises, où il y a des gens en chicane dans l'église. Ça se parle même plus. Ça se parle plus. Donc, dans une église comme la nôtre, il y a 500, 600 personnes, c'est facile de se cacher. Tu sais, dans le fond, tu pourrais t'asseoir l'autre bout là-bas, à quelque part dans le coin. Hein. Je dis pas que c'est ça que vous êtes en train de faire. Je fais juste, c'est une image. Hein. Je dis pas que Philippe a quelque chose contre quelqu'un qui est là-bas, dans ce coin-ci. Mais c'est faisable. C'est très facile, ici, se cacher dans la foule. Il y a des églises, il y a 40 personnes. Des fois, il y a un pasteur qui m'appelle, puis il dit, normalement, qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit, regarde, c'est normal, il y a deux familles dans l'église qui se boudent. Ils sont plus capables de se parler, qui s'haïssent, qui se méprisent. C'est comme, tu as 40 personnes, tu sais, quelque part, là, tu peux, t'as beau t'asseoir dans le coin là-bas, en arrière, là, tu vas croiser dans la toilette ou à quelque part, là, tu vas juste en sortant. Puis ça fait comme, tu sais, c'est comme la personne arrive, puis tu sais, c'est comme, c'est incroyable, là, c'est presque une caricature, c'est comme, comment c'est triste. Et savez quoi? Le diable jubile. Le diable est tellement content quand on commence à se mépriser, à se soupçonner, à soupçonner les motifs. Vous savez quoi? Quand tu manques d'amour, tu commences à soupçonner tout ce que les autres vont dire, tout ce que l'autre va dire. La personne pour qui tu as moins d'amour, tu vas commencer à la soupçonner, tout ce qu'il va dire. Tu vas commencer à soupçonner ce qu'il fait. Chaque geste, tu lui donneras pas confiance en partant. Tu lui donneras pas le bénéfice du doute parce que tu es biaisé. L'amour, le manque d'amour fait ça. Il te fait soupçonner le mal. Mais l'amour ardent couvre une multitude de fautes. En d'autres mots, l'amour va passer par-dessus le mal qu'une personne va me faire ou va faire à une autre personne. Parce que tu sais qu'est-ce qui arrive des fois? Des fois, je l'aime celui-là. Je l'aime beaucoup, ardemment celui-là. Et M. X ou Mme X fait du mal à cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tranquillement, dans l'église, il va commencer à se former deux camps. Ceux qui sont solidaires puis qui s'aiment bien gros ensemble, puis ceux qui s'aiment bien gros dans ce gang-là, et j'ai vu ça dans une église. Puis à un moment donné, c'était comme, on commençait à s'haïr l'un contre l'autre. Ça n'a pas de place dans l'église. Pierre a dit, écoutez, c'est la fin des temps, c'est la dernière heure, on n'a pas de temps pour ça, ça n'a pas de place. Donc, l'amour ardent, il dit, aimez-vous ardemment pour la gloire de Dieu et parce que c'est la fin des temps. C'est la dernière heure. Pas le temps pour ça. On veut être édifiant, on veut s'aimer ardemment, c'est-à-dire qu'on veut passer par-dessus le mal que je peux subir d'une autre personne ou qu'il peut faire subir à un autre. Ça ne veut pas dire que tu ne parles pas du mal. Au contraire, on voit d'autres passages dans Galates 6 qui dit, bien, si tu vois ton frère commettre le mal, faire le mal, toi qui es spirituel, en d'autres mots, retourne et prie, demande à Dieu de toucher ton cœur, humilie-toi, repens-toi. Et là, va parler du problème à ton frère ou à ta sœur, mais tu fais avec un esprit de douceur, avec amour, avec tremblement même, et tu veux gagner ce frère ou cette sœur. Tu veux qu'elle revienne dans la communauté, qu'elle embrasse la communauté, qu'elle aime aussi les frères et les sœurs d'assemblée. Tu veux l'encourager à s'unir, à être solidaire. Et c'est ça que Dieu veut comme Église. Et au bout du compte, tu vas continuer à l'aimer en dépit de ce mal-là qu'elle a fait. Tu ne le bouderas pas. Fais face. Et des fois, c'est difficile. Il faut s'humilier parce que la personne, peut-être, n'est pas prête à se repentir si effectivement mal il y a. La personne n'est pas là. Jésus te demande de passer par-dessus ça. Aime-le ardemment. Lance pas la serviette. Abandonnez pas. Continue à l'aimer malgré ce mal-là que tu subis. Oui, il a peut-être parlé contre toi. Il t'a peut-être méprisé. Tu as peut-être entendu des choses qui sont super blessantes. Et c'est vrai que c'est blessant. Comme un couteau. Là. Ça fait mal parce que tu l'aimais. Ça fait mal. Tu l'aimes. Alors, ça fait mal, ça. Mais Jésus nous est en train de nous dire, écoute, c'est la dernière heure. Puis tu veux glorifier Dieu. Alors, l'amour couvre une multitude de fautes. Continue à l'aimer malgré le mal qu'elle te cause ou elle cause à un autre. Amen. C'est dur, ça. Mais regardez ce verset qui se trouve ici, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 12, 15, qui dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. » Laisse pas la mauvaise herbe de l'amertume pousser dans le... Tu vois un petit peu de mauvaise herbe d'amertume, saute dessus, arrache-le, attends pas que ça devienne un trois pieds. Saute dessus, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Tu ne veux pas laisser la mauvaise herbe de l'amertume prendre la place. Tu veux aimer ardemment. Tu veux couvrir une multitude de fautes. C'est ça que l'amour ardent fait. L'amour ardent persévère. Il aime malgré les fautes. Maintenant, il y a des gens qui pensaient peut-être que, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire ça que parce que tu aimes, tes péchés vont être pardonnés? Est-ce que c'est comme, OK, un paquet de fautes vont être effacées si tu aimes? C'était ça que les rabbins pensaient. Les rabbins enseignaient que si finalement il y avait des gens qui faisaient du mal, etc., si tu les aimais, bien, ça faisait comme une balance. Tu venais qu'à pardonner tes péchés. C'est comme tu fais du bien, puis ça contrebalançait. Mais c'est pas ça que le passage est en train de dire. D'ailleurs, tous les péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. C'est lui qui a offert le sacrifice, qui offre le pardon. On n'a pas besoin de faire des choses pour avoir le pardon de Dieu, sinon que de confesser nos fautes, nous dit 1 Jean. Non, ce que ça dit ici, c'est que l'amour ardent va persévérer, va aimer malgré le mal même que l'autre peut faire. Et Proverbes 10, 12, ça fait écho, ce passage-là de Proverbes 10, 12, qui dit ceci, « La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. » 1 Pierre 3, 8 dit, « Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel. » De compassion, de bienveillance. C'est comme ça qu'on devrait s'aimer dans l'Assemblée. Avoir plein de compassion, plein de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal. N'insulte ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. En d'autres mots, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et si tu donnes, tu offres, tu es généreux avec le pardon, tu es généreux avec l'amour, bien le Seigneur dit, toi, Dieu va bénir en retour. On est appelé, surtout parce que c'est la dernière heure, surtout parce que la fin de toute chose est proche, et surtout pour la gloire de Dieu, pour le témoignage qu'on veut rendre, parce que l'Évangile nous a tellement transformés en un nouveau peuple, parce que nous sommes des prêtres. Il me semble que ça ne colle pas avoir plein de prêtres qui chicanent les uns les autres. Il me semble que ça ne marche pas dans le décor. Hein? Non, ce qu'on veut, c'est être des représentants de Dieu qui s'aiment, plein de compassion, plein de bienveillance. Puis ça endommage tellement le témoignage de l'Église. C'est pas édifiant. Donc, on fait un pas en avant en priant les uns pour les autres. en s'aimant, ardemment, en passant par-dessus les fautes. Et c'est sûr qu'on va, c'est sûr qu'on va se faire du mal. C'est certain, on est des pécheurs. C'est comme, c'est sûr, deux pécheurs. Tu sais, il y a un livre qui est écrit quand tu te maries, ça dit « When sinners say I do », quand deux pécheurs disent « Oui, je le veux ». Imagine-toi donc le mariage, c'est deux pécheurs qui se marient. Est-ce qu'il va y avoir des... C'est sûr qu'il va y avoir des ajustements. Absolument. Il a besoin d'un amour ardent qui va passer par-dessus des fautes pour continuer. Absolument. Alors, c'est sûr, on a besoin de cet amour-là. Troisièmement, accueillez-vous les uns les autres avec bonté. Verset 9, exercez l'hospitalité les uns les autres sans murmurer. Maintenant, l'hospitalité va revenir explicitement plus de 5 fois dans le Nouveau Testament, puis plusieurs fois implicitement. Alors, c'est vraiment un thème qui va revenir. On peut certainement comprendre l'urgence de l'hospitalité aussi, particulièrement dans cette époque-là où les chrétiens étaient persécutés, puis t'es jeté dans la rue. Puis là, tu te retrouvais, tu avais besoin d'un refuge, un toit sur la tête. Alors, Pierre dit, écoute, venez-vous-en dans les maisons, ouvrez vos maisons, accueillez des familles, tout ça. Et c'est un peu aussi ce qu'on fait, hein, à essayer d'aider les gens. Et dans l'entraide et tout ça, on veut prendre soin les uns des autres. Et non seulement ça, ça a pris à peu près 2 siècles avant que les églises aient un bâtiment, leur propre bâtiment. Donc, les gens, l'église se réunissait dans des maisons, dans des foyers. Donc, c'est important d'ouvrir les demeures. On pense ici au groupe Maison qui nous accueille chaleureusement dans leur foyer. Ça nous permet d'avoir un beau ministère dans l'Assemblée en s'accueillant les uns les autres comme ça dans les demeures. Et c'est bon, ça. On pense au foyer qui s'ouvre pour des ministères dans l'Assemblée. Plein de foyers comme ça. Et c'est ça, c'est tout à fait en ligne avec la parole de Dieu, ça. Et on l'a vu tantôt par le graphique, c'est en se mouillant, c'est en s'impliquant que ça nous aide, ça nous propulse, ça nous fait grandir dans le Seigneur. Malheureusement, c'est comme autre chose, il y a de l'abus partout et ça va arriver. Il y a des gens au premier siècle, même qui abusaient. C'était rendu qu'il y avait des gens qui se prenaient pour des prédicateurs itinérants, des missionnaires. Et là, ils allaient finalement sous le bras de certaines familles de l'Église, allaient demeurer là. Puis, ils disaient que c'était pour au nom de l'Évangile qu'ils faisaient ça, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ne voulaient pas aller travailler, puis ils voulaient avoir un toit gratuit. Et c'est rendu qu'au premier siècle, on va écrire un document qui s'appelle le Didaquè. C'est pas inspiré, c'est pas la parole de Dieu, mais c'est les chrétiens qui sont mis ensemble et ont décidé de dire, écoute, faut absolument encadrer l'hospitalité parce qu'il y en a qui abusent. Alors voici ce qu'ils ont dit. Ils ont écrit un document et particulièrement au 11e chapitre, ils ont décidé d'encadrer ça. Que tout prophète itinérant venant à vous soit reçu comme le Seigneur. En d'autres mots, donnez-leur le bénéfice du doute. Ils disent qu'ils s'en viennent parce qu'ils ont un ministère à faire puis tout ça, c'est correct. Mais il dit, mais il ne restera qu'un jour, 2 s'il est besoin. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. En d'autres mots, et les gens voulaient qu'ils réfléchissent, c'est, écoutez, laissez-vous pas prendre, là, c'est correct, parce qu'il y avait beaucoup d'abus. Puis il dit, 3 jours, c'est un faux prophète. Il dit, en parlant que le prophète itinérant ne prenne rien, en partant, qu'il ne prenne rien, sinon le pain suffisant pour atteindre l'endroit où il passera la nuit, s'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Mais, si quelqu'un vous dit, parlant en esprit, « Ah, le Seigneur me dit que tu devrais me donner de l'argent. Le Seigneur m'a montré ça cette nuit, j'ai passé 2 heures dans la prière, puis il m'a montré là, que tu devrais vraiment me donner, faire un beau chèque. » Alors, mais si quelqu'un vous dit, parlant en esprit, « Donne-moi de l'argent ou autre chose », il dit, « Écoute-le pas. » Cependant, si c'est pour d'autres personnes qui sont dans l'indigence, qu'il a dit de donner, mais que personne ne le juge. En d'autres mots, comme Paul a fait ça, se promenait puis recueillait des fonds pour aider les démunis, tout ça, à Jérusalem. En d'autres mots, oui, il faut user de sagesse, on veut être accueillant avec sagesse, mais avec générosité. Et c'est une façon d'exprimer son amour pour le peuple de Dieu. Et en passant, quand on parle dans ce passage-là, on parle particulièrement des gens de l'Assemblée. Oui, ailleurs, on va dire d'aimer les gens de l'extérieur, mais dans ce passage-ci, c'est vraiment, il s'adresse aux gens de l'Assemblée. Et c'était important d'accueillir les gens, parce qu'il y avait effectivement de vrais missionnaires qui allaient de ville en village, qui allaient apporter le message de l'Évangile. On pense à l'apôtre Paul, qui a voyagé, a fait 3 voyages missionnaires pour amener l'Évangile, même jusqu'en Europe. Alors, c'est important, effectivement. Alors, on fait un pas en avant, en priant pour les autres, en aimant les autres, en accueillant les autres, puis en servant les autres. Verset 10 dit ceci, « comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Et là, il va donner deux exemples. Maintenant, il y a plusieurs dons. Mon ami Wayne Grudem, dans son livre, dit, il y en a énuméré à peu près une vingtaine, puis au bout de ligne, il dit, « Sais-tu, ça peut monter à une centaine. » En d'autres mots, on ne pense pas avoir une liste vraiment claire, exhaustive. Je pense qu'il y a des variétés de dons et tout ça. C'est pas mal plus complexe. Mais l'important de comprendre, c'est que chacun d'entre nous, toi particulièrement, toi là, on ne parle pas de ton voisin, toi, tu as un don de l'Esprit-Saint. Tu as été transformé par la puissance de l'Évangile. Tu n'es plus ce que tu étais, c'était en Jésus-Christ. Tu n'es plus la même personne. Tu as été une personne élue comme peuple de Dieu. Tu es un prêtre. Et Dieu t'a doué pour accomplir une mission qu'il a réservée et préparée d'avance pour toi. Personne ici n'est laissé pour compte. Vous êtes tous spécial et important pour accomplir une mission. C'est majeur. Et Pierre va donner deux exemples. Il va parler de la communication, ceux qui ont des ministères de communication, puis il va parler du service. Verset 11. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. En d'autres mots, il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alors, on sert les autres en priant pour eux, parce que tout le thème, tout le passage porte sur le thème du service. Alors, on sert les autres en priant pour eux, en les aimant, en les accueillant, et en bénissant les autres avec le don qu'on a reçu. Tu fais profiter l'Église du don que tu as reçu. C'est une bénédiction pour les autres. Et c'est ça le but des dons de l'Esprit. Chaque chrétien a reçu un don de l'Esprit. Maintenant, on a déjà fait une série sur les dons de l'Esprit. Je pense que le thème, c'était sur le Saint-Esprit, que vous pouvez trouver sur l'Internet. J'aimerais quand même dire que ceci. Alors, regardez le verset 10. « Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Les dons de l'Esprit viennent de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est lui qui choisit quel don il va nous donner. Ce n'est pas nous. Alors, pourquoi Dieu donne des dons? Bien, il le dit dans un autre passage, dans 1 Corinthiens 12, 7. Il dit, à chacun, vois-tu, encore une fois, ça revient à chacun, à chaque personne, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous, pour l'utilité commune. Ça l'édifie l'Église, ça construit l'Église. Vois-tu, un don de l'Esprit, c'est une capacité divine, une énergie divine qui t'a été donnée afin d'édifier les autres membres de l'Église. Hey, imagine, l'Évangile a fait ça en toi, a fait un miracle en toi, il t'a donné un don de l'Esprit. Maintenant, tu te dis, oui, mais moi je ne connais pas mon don. Sais-tu quoi? Sers le Seigneur. Les autres, tranquillement, vont te voir. Tu sers le Seigneur, il y a des questionnaires, il y a un genre de questionnaire qui existe pour essayer de t'aider à te pointer vers un don possible et tout ça. Ça existe, on en a, mais vraiment, ça commence avec le service. Tu n'attends pas de dire, j'attends de découvrir mon don avant de servir. Tu ne découvriras pas ton don comme ça, je peux te le garantir. C'est en servant tranquillement que tu vas le découvrir. Alors, cache pas ton don, mets pas ton don de côté, puis de le garder pour toi. Sois généreux avec l'usage de ton don. Offre-le à l'Église. Sois généreux avec tes talents, avec tes dons. 1 Corinthiens 12, 11 dit ceci. Toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Il donne une belle image du corps de Christ qui est comme vraiment un corps. L'Église est comme le corps de Christ. Verset 12 dit, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Maintenant, on voit des dons, la liste des dons dans Corinthiens 12, dans Romains 12, dans Éphésiens 4 et ici dans 1 Pierre un petit peu. Mais il y a plusieurs dons. Ce que ça signifie pour chacun d'entre nous, c'est que nous avons tous un ministère à accomplir. Toute la gang. Ça va prendre différentes formes, mais vous avez un don. On a tous une œuvre à accomplir et Dieu t'a équipé pour accomplir cette œuvre-là. Mais ça ne veut pas dire que si je n'ai pas le don de service, je ne dois pas le servir. Non, parce que l'usage des dons est là pour m'édifier et m'inciter à faire encore plus ce que l'autre fait avec l'énergie divine. Par exemple, si je vois quelqu'un qui a un don de service, et ça arrivait souvent, un frère vient me voir, une sœur, est-ce que je peux faire quelque chose? Vous avez cet événement-là, je veux m'impliquer, je veux aider. Moi, ce que ça me dit, à quelque part dans mon cœur, je vois le beau cœur de l'autre qui est généreux, et moi, ça m'incite à faire pareil. Et c'est ça l'usage des dons dans l'esprit, est là pour m'inspirer, me provoquer, à servir comme l'autre. Et c'est ça l'idée de l'usage des dons. Certes, chaque personne a une énergie divine dans l'Assemblée pour accomplir une œuvre que Dieu leur a confiée. Et cela aide à l'édification du corps de Christ. Alors, nous sommes tous des êtres uniques. Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Mets pas ton don sur une tablette parce que c'est la dernière heure et parce que la gloire de Dieu. Dieu veut être glorifié. Il va être glorifié quand les enfants se mettent à son service. Quelqu'un a dit, nous sommes tous des êtres uniques. Dieu veut nous utiliser d'une manière unique, dans un milieu unique, à un moment unique. C'est toi ça. Jim Elliott, ancien missionnaire en Équateur, a dit ceci. Il n'est pas fou. Celui qui donne ce qu'il ne peut conserver pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. C'est pas mal profond, ça. Oui, des fois, servir, c'est essoufflant. Mais Elliot dit ceci avec sa vie qui a été dédiée vraiment. Il dit, « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut conserver pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. » Ce que vous faites, mes chers amis, votre attitude au bureau, votre attitude dans votre famille, votre vie de sainteté, la vie que vous menez pour la gloire de Dieu, ça ne se perdra pas. C'est tout au ciel. Le Seigneur voit ça, puis les récompenses vous attendent. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te glorifier. Nous voulons te remercier pour la puissance de transformation de l'Évangile. Seigneur, tu as fait de nous des êtres nouveaux. Nous sommes tous des prêtres, des représentants de Dieu. Et combien nous voulons t'adorer, te glorifier, Seigneur. On ne méritait pas toutes ces grâces que tu nous as faites. Tu nous as même rendus utiles pour ton œuvre. Alors, on veut te glorifier, Seigneur. Tu nous as équipés afin que l'on puisse s'investir dans ton œuvre et faire une différence. Parce que l'heure est proche, ton retour s'en vient et nous voulons te donner gloire. Ô Seigneur, nous voulons t'offrir nos vies comme une offrande. Sers-toi de nous, sers-toi des dons que tu nous as donnés. Sers-toi de notre temps, notre argent, notre cœur. Oh, nous t'offrons, Seigneur, nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.